Sappho, Tribat,
Queer,
Éjaculation,
Cyprien,
Lesbienne,
Poil aux aisselles, Chemise à carreaux,
Doigts, Femme Fontaine, Hélène B, Pierre, Cunilingus, Corps, Brouteuse de gazure, Téton, Oreille, Cyprien, Femme de timbre, Hélène B, Pierre, Cunilingus, Brouteuse de gazure, Lubrifiant, Cyprien, Coach, Femme,
En partenariat avec Fierre, SOS Homophobie et l'Inter-LGBT,
Gouinement Lundi, l'émission 100% lesbienne et bi.
Tous les derniers lundis de chaque mois.
Routeuse de gazon.
Colleuse de timbre.
Bonsoir à toutes, merci de rejoindre Gouinement Lundi, l'émission 100% lesbienne et bi sur Fréquence Paris Pluriel. Chaque dernier lundi de chaque mois, Gouinement Lundi est réalisé en partenariat avec Homo Micro, YAG et trois organisations fières, l'Inter-LGBT et SOS Homophobie. Animé avec moi, donc Brahim et Émilie Géano. Bonsoir.
Bonsoir Brahim.
Alors ce mois-ci, on se penche sur la visibilité et l'invisibilité des lesbiennes dans les médias. Et on entend ici médias au sens large, au-delà de la presse et d'information, en parlant aussi de littérature et de la représentation des lesbiennes à la télévision, comme dans Plus belle la vie. Nous avons plusieurs invités ce soir.
Oui, tout à fait. Alors, nous avons donc avec nous pour débattre Stéphanie Arc, qui est auteure spécialisée sur les questions de genre et sexualité. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
Michèle Laroui, militante féministe et co-auteure du livre Mouvement de presse, dont nous parlerons plus tard.
Bonsoir. Bonsoir. Lesbienne aussi.
Et lesbienne aussi. Et Rag du collectif Barbiturix, qui nous rejoindra dans quelques instants. Et nous avons donc aussi avec nous au téléphone, depuis Lyon, Isabelle Price, qui est créatrice du site internet Univers Elle. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Isabelle.
À tous.
Bonsoir. Et donc, avant de plonger dans la thématique de ce soir, je voudrais lire un extrait de Poe, de l'auteure américaine Dorothy Allison, essai à propos de sexe, de classe et de littérature, auteure lesbienne aussi, récemment réédité aux éditions Cambourakis. Je commence donc. « Toute ma vie, j'ai détesté les clichés, ceux concernant les personnes comme moi et celles que j'aime. Chaque fois que je prends un livre qui prétend parler des pauvres, des homos ou des femmes du Sud, je le fais avec une certaine anxiété, consciente que les livres qui parlent de nous ont souvent été petits, cruels et faux. » J'ai voulu que nos vies soient prises au sérieux et que l'on donne des représentations complètes, pour qu'elles soient aimées ou détestées, pour qu'elles terrifient ou obsèdent, mais qu'elles soient réelles, qu'elles aient la force d'un tout. Nous sommes celles et ceux sur lesquels ils se font des idées, nous, Gwyn non représentées et femmes, et nous avons le droit d'exiger nos vies dans leur totalité, épouvantables, compliquées, ne serait-ce que pour prouver à chaque fois que notre réalité a été volée, défigurée et déshonorée. Le concept de la littérature féministe m'offrait la possibilité d'être fière de ma sexualité. Le propos de la critique féministe contre la littérature patriarcale, c'était que tout ce que l'on avait cru sur le pouvoir de la littérature pour changer le monde n'était pas possible, et que si nous voulions être fidèles à notre propre vision, nous devions créer une nouvelle littérature, d'un nouveau genre. Croire en la littérature, une littérature féministe, allait être la raison qui me pousserait à me consacrer toute ma vie à cette recherche. Le petit mouvement de l'édition féministe est né de cette croyance déçue et de l'espoir de restaurer une littérature en laquelle nous pourrions croire. Daughters, Inc., Diana Press, Amazon Quarterly, Quest, Conditions, jusqu'à Outlook. Toutes ces maisons d'édition, tous ces magazines avec lesquels j'ai travaillé et que j'ai soutenu, même quand je trouvais certains articles ennuyeux ou embarrassants, sont nés de ce rejet d'un faux idéal pour quelque chose de véritable. C'était une entreprise très incohérente à la base, parce que créer un travail honnête dans lequel nous n'avions pas à masquer nos expériences réelles ou notre sexualité et notre genre était absolument nécessaire. Mais refuser les critères littéraires établis n'était pas facile et rejeter le patriarcat remettait tant d'autres choses en question. La difficulté rencontrée par les écrivaines féministes et lesbiennes de ma génération se comprend mieux si l'on pense au fait que pratiquement aucune écrivaine lesbienne féministe de mon âge ne pouvait gagner sa vie grâce à l'écriture. La plupart d'entre nous écrivaient tard le soir après d'épuisantes et exigeantes journées de travail, après des soirées et des week-ends d'activisme politique, de meetings et de manifestations. La plupart d'entre nous consacraient énormément de temps et d'énergie à créer des maisons d'édition et des magazines qui incarnaient nos idéaux politiques, en renonçant au temps et à l'énergie nécessaires à notre propre écriture. Tant de mes étudiantes et mes étudiants, gays, lesbiennes ou féministes, ignorent l'histoire de leur propre communauté. Ils ont pu lire Common Lives, Lesbian Lives, On Our Backs ou différents magazines et se moquer de ceux publiant des fictions aussi banales, jugeant ces magazines avec dédain parce qu'ils ne publiaient pas de polémiques écrites au vitriol ou des confessions sans pudeur. Mais peu d'entre elles et eux savent quoi que ce soit de l'idéologie qui, dans les années 70, nous a fait abandonner les critères littéraires existants pour créer les nôtres. Nous croyons en la valeur politique de l'acte éditorial et nous nous interrogeons de savoir ce qui était réduit au silence quand le travail brut et nu de femmes qui sortaient de canons littéraires en cours était réécrit ou publié de façon à en effacer l'authenticité. Mes étudiantes ne se rendent pas compte de l'importance qu'il y avait à laisser de vraies femmes raconter leurs histoires avec leurs propres mots. J'essaie de leur expliquer en attirant leur attention sur l'ethnographie et les traditions orales, des techniques qui révèlent ce qui est si rarement visible dans les fictions couramment éditées, des voix puissantes, inhabituelles, non reconnues par le courant majoritaire. Je leur parle de tout ce qui pouvait être publié ou même écrit avant la création de maisons d'édition homo ou lesbiennes. J'apporte de vieux exemplaires des éditions Daughters, pas Ruby for Jungle qu'ils connaissent, mais A True Story of a Drunken Mother de Nancy Hall, qu'ils et elles n'ont pour la plupart jamais lu. Je leur parle de mon cas personnel et je leur dis carrément que je n'aurais jamais commencé à écrire quoi que ce soit qui vaille la peine sans l'exemple de ces maisons d'édition et de ces magazines qui m'ont rassurée quant au fait que ma vie et celle de ma famille étaient des sujets dignes d'être traités. Donc, j'ai choisi ces passages parce qu'ils m'ont marqué à la lecture. Et pour moi, il dit beaucoup justement de l'importance vitale de la visibilité des lesbiennes et des, à travers donc plusieurs médias. Ici, on parle surtout de littérature et de magazines, puisqu'elle parle principalement des années 70. Et aussi de l'importance justement de se souvenir de cette histoire et de comment aussi les lesbiennes se représentaient et s'auto-représentaient dans ces magazines et ces publications. Et donc Stéphanie, je voudrais vous faire intervenir sur ce point, puisqu'on voit dans cet extrait la volonté d'écrire avec un engagement politique et féministe fort. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans les publications lesbiennes ou féministes, on trouve encore cet aspect militant, ce besoin de parler, d'écrire ?
Oui, d'abord, c'est un très beau texte. Je voulais juste remercier les éditions Cambourakis de l'avoir réédité, là. Parce qu'il était plus disponible, et puis il a été publié en 94 aux États-Unis et il a été traduit en 99 en France chez Ballant, mais on ne le trouvait plus, donc voilà, on peut maintenant l'acheter à nouveau chez Violette & Co, par exemple. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Évidemment, on trouve des publications militantes de toute façon. Voilà, déjà autour de cette table, on trouve plusieurs personnes qui sont investies dans des publications qui sont militantes. Moi, la première, évidemment, je pourrais reconnaître certaines phrases de ce texte comme des choses qui ont motivé le fait que je me mette à écrire sur les lesbiennes. Toute ma vie, j'ai détesté les clichés, c'est la première phrase du texte. Donc, mon bouquin, c'est sur les idées reçues. Et justement, quand elle dit exactement cette phrase, j'ai voulu que nos vies soient prises au sérieux et que l'on donne des représentations complètes. Et aussi, nous avons le droit d'exiger nos vies dans leur totalité, ne serait-ce que pour prouver à chaque fois que notre réalité a été défigurée, déshonorée, etc. Donc c'est vraiment prendre la parole, que ce soit par l'écriture, notamment, mais pas seulement par l'écriture, par le cinéma ou par plein d'autres actions militantes qui communiquent sur ce qu'on est, sur nos identités, pour remettre à jour et dire la réalité de nos existences, quoi.
Est-ce que, Isabelle, vous êtes...
Oui.
C'est un peu perturbant, du coup, je ne vous vois pas, donc je ne sais pas si vous êtes là ou pas.
Si, mais en fait, ça hache, c'est pas très très bon au niveau du son, mais
ça va, ouais. Isabelle, vous nous appelez d'où ?
De Lyon.
De Lyon.
Je suis à Lyon.
Bonsoir.
Et donc, ce que je trouvais intéressant aussi par rapport à ce... Enfin, vous, quand vous avez commencé à le site internet Univers L, est-ce que c'est... Enfin, pour quelle raison ? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ?
C'est exactement pour ces raisons... Enfin, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. C'est vraiment pour ces raisons de visibilité et de sortir des clichés qu'on pouvait avoir. Encore aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est de voir que l'un des articles qui est le plus repris, c'est le cliché de la lesbienne morte ou mauvaise, qui était très présent dans les années 90, dans ces années-là. Et,
le cliché de quoi ? J'ai pas entendu.
La lesbienne morte ou mauvaise. C'est-à-dire morte, que quand vous mettiez un personnage lesbien dans une série, dans un film, c'était la tueuse en série. Elle se suicidait à la fin, c'était un personnage qui était négatif. Et petit à petit, les choses ont évolué, et justement, c'était quand j'ai lancé le site, ça fait déjà 10 ans, que je voulais, c'était sortir de ce qu'on avait l'habitude, de ce qu'on voyait, pour montrer que la représentation, elle était plurielle, et qu'il y avait beaucoup de choses, et que c'était loin de... Il n'y avait pas que les principales représentations dont on parlait, il y avait plein d'autres choses. Et qu'on n'était pas juste une facette, mais il y en avait plein. C'est vraiment cette notion-là.
Et alors, comment fonctionne votre projet éditorial ? Enfin, qu'est-ce que vous choisissez de publier comme article ?
On publie énormément sur les films et les séries. Parce qu'à la base, c'est vrai que c'était là-dessus. On publie régulièrement des livres, pour présenter des livres. Je sais que je suis une grande lectrice et que j'étais très frustrée de ne pas trouver... des listes de livres autres que dans les librairies spécialisées. C'est vrai que moi, à la base, je viens d'Auvergne. Il n'y avait pas de librairie lesbienne, on n'avait pas tout ça. Et le fait de chercher sur Internet, qui était quand même une révolution à mon niveau, et je pense chez beaucoup de personnes qui étaient isolées et qui étaient loin des grandes villes, c'était vraiment de se dire qu'est-ce qui est accessible, quelles sont les différentes voix qu'on peut entendre, que je peux trouver, et pas juste ce dont j'entends parler sur les réseaux généraux et les grandes chaînes françaises. Voilà, c'était tout ce qui existait autour.
Est-ce que vous arrivez à savoir un peu qui vous suit un peu sur votre site internet, quel type de personnes vous touchez? Oui. Jeune, moins jeune?
Assez jeune. En fait, ce qui est amusant, c'est de voir que finalement, je pense que le jeune public s'est vraiment emparé de l'outil internet. Donc, on a beaucoup de jeunes qui découvrent et qui nous contactent. C'était le cas il y a 10 ans, c'est encore le cas aujourd'hui. Récemment, il y a une personne qui nous a interpellé sur Twitter en disant VL World, est-ce qu'il y aura une nouvelle saison? Non, en fait, VL World, c'est fini depuis 2009, mais voilà, il y a encore des jeunes qui découvrent les séries, qui découvrent les films. Et je pense que quand on est jeune et qu'on est en recherche de films lesbiens, de séries, Internet pour ça est vraiment d'une accessibilité exceptionnelle. Je sais qu'il y a, en fait, on a été surprise de voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas les grandes villes. On n'a pas, alors oui, Paris représente beaucoup de lectrices et Lyon aussi, mais c'est aussi réparti à travers toute la France, sur des petites villes, des petites régions, des gens qui sont potentiellement isolés, en fait. Et c'est vrai que quand on a la carte de France, on est contente de se dire qu'on représente toute la France, un peu comme l'équipe où on a des personnes qui sont en Bretagne, des personnes qui sont dans le nord de la France, des personnes dans le sud. Voilà, c'est un peu la même chose.
Émilie ?
Pardon, je suis un peu malade aussi, donc je risque de tousser parfois au cours de l'émission.
Mais ça va, elle a du café chaud et des pastilles pour faire passer la douleur.
Oui, alors combien êtes-vous en fait dans votre équipe à écrire ces articles et comment est-ce que vous choisissez les sujets ?
On est une petite poignée, alors c'est vrai que ça varie, on peut aller jusqu'à 10 et puis après on peut redescendre jusqu'à 5, c'est en fonction du travail de chacune. C'est vrai que ça reste un site bénévole. Du coup, qui dit bénévolat dit un investissement qui fluctue. On a la chance, par exemple, en ce moment, d'avoir une personne qui adore, qui comprend et qui connaît l'Allemagne, et du coup, qui regarde les soap-opéras allemands. Et elle rend accessible aux personnes qui aiment ce type. C'est un peu la même chose que Plus belle la vie, mais version allemande. Et elle rend accessible à travers des traductions, des résumés, une autre vision qu'on pourrait avoir des lesbiennes représentées dans des soap-opéras. Je sais que on a une bretonne qui nous fait des traductions d'interviews en anglais. C'est vrai que ça, c'était quelque chose, quand j'ai créé Univers, qui nous manquait, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de matière en langue étrangère, notamment en anglais, et on avait très peu de choses en langue française. Donc, de rendre accessible des interviews à des personnes qui ne lisent pas l'anglais, c'est super important pour nous. Voilà. Donc, on est à peu près 5. J'en profite pour les remercier d'être toujours présentes et de travailler autant, parce que c'est vrai que j'ai conscience que c'est un investissement. Après le bénévolat, on l'a vu dans les médias lesbiamag ou des médias comme ça, c'est le bénévolat,
parce que ça
peut le faire vivre quelques temps, mais c'est difficile quoi, sur le long terme c'est pas évident.
Parce que de toute façon ce serait pas possible non plus de rémunérer rémunérer les personnes, vu que le site internet est gratuit et qu'il n'est accessible.
C'est ça. C'est l'un de mes rêves. J'aimerais pouvoir payer les personnes qui écrivent des articles, rémunérer à l'article ou ce genre de choses. Mais l'une des choses qui pour moi était importante, et la révolution internet pour moi c'est ça, ça a été de donner l'accessibilité gratuitement. Donc on se paye avec des publicités du style Google, qui quand elles s'affichent nous permettent de payer des hébergements. Et les premières années, c'était moi qui payais, donc c'était mon argent. Il y a 5 ans à peu près, les bénéfices qu'on a fait via les publicités ont permis que ça soit plus mon argent, mais que ce soit l'argent du site qui génère de quoi s'héberger lui-même. C'était un grand pas, mais on est encore très loin d'effectivement rémunérer des personnes.
Et donc, je tenais à saluer Rac qui vient de nous rejoindre.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Et comme vous devez bientôt partir, je crois, malheureusement.
Oui, je vais devoir filer.
Alors, ok. Donc, je vais passer avec vous et après, je reviendrai vers vous, Isabelle, au sujet de votre maison d'édition lesbienne, justement, pour en parler un peu plus. mais je vais passer un peu avant à RAG. Donc en fait, RAG aussi, c'est... l'autre point, c'est que, par exemple, j'ai découvert que en fait, les lieux de sociabilité lesbiens ont aussi été généralement un peu un tremplin, si on veut, vers la publication de magazines ou inversement. Par exemple, avec le Housewife, qui était le mini-magazine du Pulp, qui avait l'air d'être assez sympa. Et en fait, sur le fanzine Barbituris, c'est un peu dans cette même idée. Il est né avant, le fanzine est né avant les soirées ou...
Oui, tout à fait. Le fanzine est né avant les soirées. L'idée, c'était justement de proposer un fanzine dans la lignée des publications de Riot Girl. Hein. Donc, quelque chose d'un peu léger, un petit peu paillette. Il y avait pas mal de coups de gueule aussi, des photos. Voilà, c'était aussi pour proposer quelque chose de moins politique et peut-être moins militant, mais justement pour un peu plus léger, pour qu'il soit accessible à une jeunesse qui aime sortir. Et donc, du coup, le fanzine a été distribué d'abord dans des lieux de nuit. Il a été assez vite épuisé. Donc, du coup, pour financer le fanzine, on avait décidé de créer des soirées pour financer ce fanzine, donc. Et c'est de là qu'est né vraiment le concept Barbituris, qui est à la fois un fanzine, des soirées et du coup un site internet, parce qu'après le web a pris de l'ampleur. Et donc du coup, c'était logique de décliner le fanzine sur le web.
Et maintenant, il est surtout présent sur... le fanzine est de nouveau un peu distribué.
Alors le fanzine, on avait dû le mettre un petit peu justement en attente parce que le site internet a carburé pas mal. Donc du coup, on n'avait plus de temps pour les publications. Donc du coup, on s'est vraiment concentré sur le site internet, qui est quand même plus facile déjà à manier. Et en plus, c'est plus facile d'accès on a une plus grande portée. Donc du coup, nos rédactrices étaient surtout concentrées là-dessus. Mais après, il nous semblait important, justement, quand on a vu l'apparition de Well, justement de rééditer notre fanzine, peut-être de manière un petit peu plus professionnelle et moins léger qu'il l'était avant. Surtout que maintenant, on a un peu plus de moyens, donc on avait la possibilité de le faire sur un beau papier, de traiter des sujets un peu plus profonds, on va dire, et voilà.
Et donc, vous venez de parler des moyens. Comment est-ce que vous financez la publication de ce fanzine, qui est gratuit aussi ?
C'est uniquement nos événements qui financent financent Barbituris, en fait. Donc, on est toutes des bénévoles, et donc dans le même cas qu'Isabelle. Mais c'est vrai que du coup, on a de la chance de faire des événements. Et par ces événements, on finance le fanzine, on finance le site internet, qui nous coûte aussi de l'argent, et on finance les autres événements.
D'accord. Quand on parle d'événements, pour celles qui ne connaissent pas, le collectif Barbituric s'organise des soirées lesbiennes type la Wait for Me.
Exactement. Je pense que la soirée la plus connue pour Barbituric, c'était donc la Wait for Me. À côté de ça, on fait aussi d'autres événements. Là, on sort d'une carte blanche à la Gaîté Lyrique, où justement on avait le plaisir de recevoir Stéphanie Arc. Et aussi d'autres soirées itinérantes, mais qui sont dédiées effectivement aux lesbiennes, mais pas que. C'est quand même quelque chose, des soirées qui sont très ouvertes à beaucoup de gens.
Vous parlez de bénévolat, vous comptez un jour vous professionnaliser et avoir plus de moyens?
Je pense que comme tout le monde, on aurait envie de le faire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas forcément les moyens. C'est pas qu'on n'a pas forcément les moyens monétaires, mais ce qu'il y a, c'est que nous ne sommes pas une rédaction. Les filles qui écrivent ne sont pas des journalistes. Moi, je ne suis pas journaliste, j'essaye de chapeauter un peu tout ça. On fait un peu comme on peut pour réunir les deux bouts. Mais voilà, moi, c'est moi qui travaille à plein temps, mais je m'occupe surtout de l'événementiel. Ensuite, on a deux rédacteurs-chefs qui sont journalistes elles-mêmes et qui font ça à la pause déjeuner ou le soir quand elles rentrent chez elles. Donc du coup, ça coûte énormément d'argent, tout ça. Nous ne sommes pas une rédaction.
Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des personnes qui finissent par s'essouffler un peu avec ce rythme?
Complètement. Ça tourne beaucoup. Après, on a quelques personnes, quand même un noyau de 5 personnes environ qui sont là depuis déjà plusieurs années et qui sont vraiment intégrées au projet. Donc c'est comme si c'était vraiment, ça faisait partie de leur quotidien. Après, c'est vrai qu'on a des contributrices qui écrivent une fois de temps en temps.
Je voulais revenir un peu sur le projet éditorial. Comment est-ce que quels articles vous traitez? Vous disiez que c'était moins militant. Vous faites aussi un peu des articles, disons, culture ou un peu...
C'est plutôt culture. C'est vrai qu'on essaye de mettre en avant les artistes femmes, qu'elles soient photographes, écrivaines, musiciennes. Donc on est très, très là-dessus. Ensuite, on publie quand même pas mal de billets d'humeur, donc des coups de gueule. Ça marche pas mal. Ça permet justement aux filles de pouvoir s'exprimer. Après, c'est vrai qu'on est un petit peu dans la provocation, dans la polémique, on aime ça, quoi. On aime bien un petit peu piquer, justement, pour un petit peu faire sortir les personnes de leur gond pour pouvoir créer un débat. C'est une façon de voir, hein. C'est un peu pop culture. et ensuite, on a pas mal d'articles sexo aussi.
Qui marche bien.
Qui marche très bien, c'est ceux qui marchent le plus. C'est très simple.
Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples des articles qui ont été publiés ?
Oui, bien sûr. Bah là, on sort d'une carte blanche, donc on a vraiment fait, on a vraiment axé sur les artistes qu'on a présentés. Donc là, c'est très musique. On a été très musique la semaine dernière. Là, je sais qu'il y a quelqu'un qui veut écrire sur, qui a une tribune sur le film Danish Girl qui sort là cette semaine ou qui est sorti la semaine dernière, je sais plus, et qui se pose la question de pourquoi il y a une polémique justement. Voilà, j'ai vu Stéphanie Cavé-Cabré réagi d'ailleurs. Ensuite, il y a une photographe aussi qui met en avant justement les artistes africaines de Guinée. Voilà pour cette semaine, par exemple. Et puis, là, il y a encore des trous. Par exemple, jeudi, vendredi, on n'a pas encore notre édition parce que justement, là, c'est savoir qui va avoir le temps d'écrire rapidement sur quelque chose. Sinon, on publie pas.
Merci.
Merci.
Isabelle ?
Oui.
Donc du coup, on va revenir vers vous maintenant. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus justement sur votre émission d'édition lesbienne numérique ? Quand est-ce que vous l'avez créée ? Pourquoi ? Et puis quel type de roman vous choisissez ? Enfin, comment ça se passe ?
On l'a créée, c'est tout récent, hein. On l'a créée à l'été dernier.
Elle s'appelle
C'était en août, on l'a lancée le 14 juillet, et puis on a vraiment commencé à communiquer au milieu du mois d'août, donc en pleine vacances, parce que c'est exactement le problème, c'est que comme les gens travaillent, on travaille sur nos pauses repas, sur les soirs en rentrant, voilà, quand on était en vacances, on a pu communiquer, donc c'est tombé un peu creux parce que tout le monde était en vacances, donc c'est pas grave, on s'est dit qu'on allait en faire un peu des choses. Moi je pense qu'il y a une vraie révolution d'Internet, et je pense que ça a changé beaucoup de choses, et on est trois à être passionnés de lecture. Et c'est vrai qu'on se disait, le problème, c'est qu'il faut rentabiliser, il faut gagner de l'argent. Ça demande aussi un gros investissement financier, parce que quand vous voulez sortir des livres en papier, vous devez avoir de l'argent pour pouvoir lancer. Nous, on n'avait pas cet argent-là. Par contre, on s'est dit, le numérique, dans le sens où il permet de sortir de sentiers battus et de se lancer sur des choses, enfin, sur des livres et des titres qui n'auraient pas forcément trouvé preneur en papier parce qu'on se serait dit ils sont pas rentables, ça n'a pas fonctionné. Donc vraiment, c'était de se dire on veut publier des livres qui nous plairaient, notamment du fantastique par exemple, qui n'est pas considéré et qui n'est pas publié parce qu'on se dit si ça rate, vous vous retrouvez avec un livre sur le dos. Et on s'est dit nous on a envie de le tenter et de voir ce que ça peut donner. On a été assez surprise de l'accueil. Surtout de voir qu'on vendait des livres finalement. On s'était attendu à en vendre beaucoup. Un livre qu'on a sorti en novembre, de voir qu'on a pu en vendre 200 exemplaires, c'est une grosse histoire.
Combien ? 200 ?
200 exemplaires de e-book. Donc vous n'avez pas le livre papier, vous l'avez sur votre tablette ou votre téléphone. De se dire qu'en quelques mois on a réussi à en vendre 200, on était très fiers. Après voilà, on parle de petites quantités aussi, hein. On n'est pas sur des milliers. Mais... Voilà. L'objectif c'était vraiment de se dire on va laisser la chance à des auteurs à qui on n'aurait peut-être pas laissé leur chance parce qu'il fallait rentabiliser et gagner de l'argent. Donc l'objectif à terme, ce sera d'essayer d'être rentable et d'équilibrer les comptes. Mais on voulait aussi se dire que on aimerait des fois trouver certains types de livres et que malheureusement, comme le marché fait que vous devez gagner de l'argent, il y a des titres qui ne sortent pas, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est qu'on essaie dès le départ qu'ils ne vont pas rapporter.
Et comment vous choisissez les livres en question ?
Pour l'instant, on avait quelques personnes qu'on connaissait qui écrivaient, et puis maintenant on commence à recevoir des titres. On est trois, on lit toutes les trois ensemble, on voit si ça correspond à ce qu'on attendait. On sait par exemple qu'il y a des livres qui sortiraient très bien dans des maisons d'édition qui ont une expérience et qui ont des titres KTM ou autres. Donc c'est vrai qu'on prévient les auteurs, on leur dit qu'ils peuvent peut-être essayer, en toute honnêteté. Hein, et puis, c'est vrai qu'on voulait aussi de la romance légère, de se dire que c'est des livres qu'on peut lire sur la plage, quand vous partez en vacances ou ce genre de choses. Donc,
pour l'instant, c'est principalement des romances, c'est pas forcément des publications ou des essais militants.
Non, c'est pas forcément des essais pour l'instant, on n'en a pas. Je me suis toujours dit que j'allais écrire quelque chose, mais vu que j'ai vu tellement de films et de séries, je pars un peu dans tous les sens à chaque fois. Donc c'est pas possible. À chaque fois qu'on me demande de choisir mes films ou mes livres préférés, j'arrive pas à faire un choix. Donc c'est pas possible d'écrire un livre là-dessus. Mais non, on est parti, oui, on est parti sur du fantastique aussi. On est parti sur un livre qu'on avait beaucoup aimé de Virginie Simonat, qui est auteure, compositrice, qui a écrit un livre qui était génial et elle avait été publiée, la maison d'édition chez Païk, donc on l'a réédité. Voilà, on est parti sur des livres de ce type-là.
Merci.
Gouinement lundi, l'émission 100% lesbienne et bi.
Donc là, on a beaucoup parlé justement notamment des difficultés financières pour lancer des projets dans ce qui apparaît un peu comme quelque chose de bénévole. Après, il y a quand même des publications aussi, disons, plus de presse plus professionnelles avec des journalistes et qui ont pour qui la question se pose aussi justement d'atteindre cet équilibre financier. Et donc pour la presse professionnelle LGBT, c'est toujours un grand problème. Donc par exemple, Yac, qui est aussi partenaire de l'émission, cherche toujours de l'argent, continue de mener une campagne d'abonnement. Et il y a, en 2013-2014, il y a eu en fait une disparition des magazines lesbiens, comme Lesbiamag ou tetue.com sur Internet, là, ou Muse and Out, anciennement la dixième Muse. En fait, toute cette disparition de magazines a inquiété quand c'est arrivé. Du coup, en réaction, en 2014, on a vu la naissance de belles revues comme Well Well Well, dont on va entendre un reportage tout à l'heure, ou de Jeanne Magazine aussi. Et justement, donc, Gouinement Lundi a rencontré à la Recyclerie à Paris Marie Kirchen, la rédactrice en chef bénévole, elle aussi, de Well Well Well, et des lectrices assidues et des curieuses, qui découvraient donc cette nouvelle revue lesbienne à la présentation très léchée. On écoute.
En fait, a priori, on n'a pas du tout l'impression que c'est un magazine lesbien quand on le regarde.
C'est comme si tu montres ça, tu me dis c'est une revue de mode gothique.
Ouais, moi je pensais que c'était des fringues.
Tu vois, ou alors c'est un truc de bijoux, enfin c'est juste que tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, parce que le portrait il est quand même assez sobre.
C'est discret.
C'est pas mal ni bien. Hein, c'est...
Après... Je suis tellement pas d'accord avec ça.
C'est vrai ?
On est juste très ouvertement, fièrement Gwyn, et il y a juste des Gwyn et des chats comme
ça. Non, mais c'est juste quand tu regardes le magazine comme ça, tu vois pas que c'est une revue lesbienne.
J'avais acheté le premier, j'avais trouvé ça chouette. Et comme je savais qu'elles étaient là ce soir à la recyclerie, je me suis dit que j'allais acheter le deuxième. Qu'on puisse entendre et voir des lesbiennes dans les médias, ça me semble important parce que l'homosexualité masculine, elle est toujours, en 2016, beaucoup plus présente que l'homosexualité féminine. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient que deux filles ensemble, c'est mignon, quoi. C'est-à-dire que l'homosexualité féminine, elle est encore... quelque chose d'abstrait et si on peut voir plus de lesbiennes dans les médias, c'est bien.
Moi je suis Brett Chef et je m'occupe d'un peu coordonner tout ça. On a commencé à travailler en 2013 et le premier numéro est paru en septembre 2014. Et en fait ça faisait suite au fait qu'il y avait plusieurs médias lesbiens qui s'étaient arrêtés. Il y avait tetue.com, la dixième muse aussi, quelques mois avant c'était Lesbien Magazine. Nous on s'est dit il manque vraiment un média qui concerne les lesbiennes, et il faut qu'on fasse quelque chose pour une question de visibilité, en fait. Il y a beaucoup de sujets sur la culture lesbienne, avec l'idée, c'est aussi de présenter des artistes, c'est aussi de présenter et de parler de l'histoire du mouvement lesbien, et également, évidemment, beaucoup de féminisme. C'est assez compliqué de financer un média homo et plus particulièrement lesbien, parce qu'en fait, il y a très peu d'annonceurs qui sont intéressés pour prendre des pages de pub dans un média lesbien, donc on n'a pas cette source-là de revenus. Et en plus, on s'adresse à une population qui est assez petite. Enfin, c'est sûr qu'on ne peut pas tirer à 100 000 exemplaires une revue lesbienne. Et on est obligé de le faire bénévolement. On a fait un crowdfunding sur Ulule. On a présenté le projet, on a récupéré des fonds pour imprimer le premier numéro. Avec les ventes du numéro 1, on a récupéré assez d'argent pour imprimer le numéro 2 et ainsi de suite. On a tiré le premier numéro à 3000 exemplaires. C'est tout parti vraiment en un mois et demi. Donc c'était vraiment cool parce qu'on a eu des super bons retours et ça, enfin voilà, c'était vraiment au-delà de nos espérances et de ce qu'on pensait. Et on a tiré le numéro 2 à 5000 exemplaires. Et donc là, il est encore en vente. Vous pouvez l'acheter soit par internet, soit en librairie.
Et le numéro 3 est en cours de préparation avec un dossier notamment sur le militantisme lesbien, une interview de Sarah Waters, auteure de romans lesbiens, et un portrait de J.D. Sanson qui mixait d'ailleurs ce week-end à la What For Me.
Combien de magazines lesbiens existent à peu près ?
Alors, moi j'en connais... Enfin, ça dépend si c'est les publications françaises, il y a la Well 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 et oui. Jeanne Magazine, et c'est tout.
Alors, on peut faire la différence entre francophone et française. Oui. Moi, je tiens à plutôt francophone, parce qu'on va trouver des Belges francophones, ou en tout cas qui vont croiser les trois langues, néerlandaise, anglaise et française. Il a disparu et c'était Scum Girl, enfin Scum Girl. Sinon, il y a au Québec, bien sûr, et puis on peut trouver certaines revues suisses qui croisent aussi. Mais ça a énormément disparu. Moi, je veux bien reprendre autour de cette histoire. Je pense qu'il n'y a pas qu'une histoire de visibilité, non-visibilité, bénévolat, etc. Je pense que c'est une histoire de fond et c'est une histoire tout simplement politique de la place des lesbiennes. Comment elles qui déjà, quelle classe sociale la middle class urbaine, etc. Et puis, à partir de quand il n'y a plus besoin de se battre pour une visibilité dans les médias, et en tout cas pour ce que moi je vais raconter aujourd'hui, pour ce qui est de la presse lesbienne, c'est-à-dire cette visibilité. Donc, en fait, moi je collabore aux archives lesbiennes depuis un certain temps. Et puis, au milieu des années 2000, je me suis dit, nous sommes dit, et entre autres Martine Laroche et moi, qu'il fallait absolument qu'on visibilise ce fonds. Et donc, on a visibilisé par des expos, on a visibilisé par des expos d'affiches, etc., un peu partout, en France métropolitaine essentiellement. Et puis, on a décidé donc de commencer à inventorier le fond de nos revues. Donc, on a éclairé, parce que pour moi, c'est important d'historiser ça un minimum. Moi, je suis pro d'art plastique, hein. Je suis vraiment pas du tout une chercheuse, mais je me disais que c'est important de dire d'où on parle, quoi. Donc, on a fait un petit éclairage et on a croisé, parce que ça aussi, c'est important pour moi, on a croisé les luttes syndicales, des revues de femmes syndicales, syndicalistes, depuis le 19e, les luttes gays, où il y avait très peu de visibilité lesbienne, et puis comment, petit à petit, on a pu avoir une visibilité lesbienne. Donc, plutôt un éclairage du 19e. Et puis, très, très vite, la revue du Torchon brûle, où, et pour moi, c'est la première fois où des lesbiennes, plutôt en région parisienne, mais il faut quand même savoir que le Torchon brûle était diffusé à 35 000 exemplaires, NNPP, et on voit par la poste, 35 000, c'est même plus imaginable maintenant, même plus imaginable. C'était un format papier style Le Parisien, si on veut imaginer maintenant, hein. Et c'était de l'impression offset.
C'est-à-dire offset.
Alors, offset, c'est de l'impression à la tradie, quoi, mais très belles impressions. Ce que vous avez là sous les yeux avec Mouvement de Presse, par ailleurs, c'est de l'impression offset, parce que ça aussi, puisque je suis plasticienne, je tenais absolument à ce que ce soit un beau livre. Donc, en fait, la presse lesbienne, elle n'a pas existé avant que ça a clashé dans le mouvement féministe et lesbien, francophone, mais pas que. Donc, au milieu des années 70, plutôt 76. C'est-à-dire que c'est une période où il y a le Torchon brûle avec 35 000 exemplaires, et puis des nanas qui font des poésies, enfin qui témoignent par des poésies, par des petits textes, de la sexualité féminine, on ne nommait pas toujours lesbienne, et qui vont parler de masturbation, par exemple. Le Torchon brûle a été interdit, le numéro 2 a été interdit parce qu'on parlait, on parlait de sexualité, le con est beau.
J'ai justement l'extrait qui m'a fait sourire.
Tout à fait. Et c'est 71, 72. Et c'est vraiment interdiction pour pornographie. Oui. C'était rédhibitoire, destruction des 35 000 exemplaires.
Parce qu'il montrait une vulve avec un clito au repos.
Oui.
Et un clito qui jouit. Donc, oui. Du coup, il était avec découvrons, enfin, le texte en dessous. Découvrez votre corps, sœur. Les dimensions infinies de notre propre sexualité ont été ignorées, déniées, déviées, bafouées par l'ego gland des hommes. Les femmes commencèrent de porter des slips, de se raser, doucher, déodoriser. Le clitoris, qu'aucun effort d'imagination ne pouvait réduire à un pur et simple trou, fut ignoré et oublié. Le con est beau. Il est temps de comprendre le con, et les femmes doivent le comprendre les premières. Il devrait être possible d'inventer un vocabulaire féminin du con fier, tendre, exact, hardi.
Voilà, très beau. Donc 71, le journal est interdit, détruit, et puis elles ont la directrice de pub est interdite. Enfin, il y a un procès. Enfin bref, on va un peu plus loin. Donc moi je pense que l'urgence de cette époque, mais après aussi, jusqu'à, on peut dater jusqu'aux années 90 ou même 2000, l'urgence c'était déjà de se visibiliser, se dire qu'on existait. Donc ce texte, qui n'est pas spécialement lesbien, donc toute femme qui veut connaître son corps peut se reconnaître. Il y a des poésies. Alors, ce que je pense important que j'ai noté tout à l'heure sur ce qui était dit autour de avoir du fric, quel contenu on mettait dans ces journaux féministes et lesbiens. On dénonçait la bourgeoisie, on dénonçait toutes les religions, on dénonçait le capitalisme, on dénonçait la famille et les hétéros. L'hétéro-patriarcat, ce qui n'était pas toujours nommé comme tel, ou hétérosocialité, ça a été une dizaine d'années après. Donc, je pense que... Voilà, il y avait un croisement entre les classes sociales, même si dans le mouvement féministe en France et en région parisienne, les classes sociales, ça a été assez difficile de le nommer. Le racisme aussi, en tout cas la solidarité aux luttes à l'époque. Il y avait quand même guerre du Vietnam et autres. Et la fin de la guerre d'Algérie, 62, on était en 70, 71, voilà. Et donc, je crois que ce qui est intéressant de se dire, c'est que des années 70 à, on va dire, les années 2000, on a vraiment essayé, dans tous les journaux féministes et lesbiens, de croiser à peu près toutes ces thématiques politiques-là. 75-67, ça pète dans le mouvement féministe en France, métropolitaine, parce que je pense que c'est important de parler aussi des Antilles, entre autres, où il y a des journaux homo et où, encore à l'heure actuelle, elles ont eu beaucoup, beaucoup de mal à se visibiliser en tant que lesbiennes parce qu'en danger. Les années 70, milieu des années 70, on va dire à peu près 76, il y a les premières petites revues minuscules, espèces de petits fanzines qu'on nommait pas comme ça à l'époque. Et puis le premier journal réellement, le premier journal lesbien, qui là aussi c'est important, à l'époque où il n'y avait absolument pas Internet, Lyon le lance et puis Paris le reprend. C'est-à-dire qu'il y avait deux groupes de lesbiennes qui se créent, Maison des Femmes de Lyon. Lyon a une profonde histoire politique dite classique et une profonde histoire de mouvements de lutte et entre autres homo, gay, queer aujourd'hui et lesbiennes à l'époque très, très fort. Et même un hôtel de femmes, un hôtel pour femmes. Et qui était très beau d'ailleurs, complètement kitsch, un ancien bordel, enfin bref. Et c'est vraiment le premier journal où il y avait vraiment des interrogations déjà sur le...
Comment s'appelait ce journal ?
Alors c'est « Quand les femmes s'aiment », donc qui a dû paraître en 8 ou 9 numéros, et c'était un format, un demi-format A4, avec vraiment des interrogations sur la visibilité, sur l'importance de se retrouver, sur les enfants, parce qu'à l'époque, il y a eu énormément de procès pour enlever leurs enfants quand une femme décidait de vivre enfin son lesbianisme avec une autre et qu'elle avait des enfants. Il y a eu énormément de procès à Lyon ou ailleurs autour de ça. Après, vous parliez tout à l'heure de Lesbia Magazine, donc c'est les années 80, c'est-à-dire Mitterrand arrive, je dirais pas le PS, mais enfin bref, Mitterrand arrive au pouvoir. Il y a des subventions qui tombent et puis il y a la dépénalisation de l'homosexualité. Ça aussi, c'est une clé politique, entre autres. Et donc, il va y avoir une visibilité homo. Mais ça va, comme le PS, comme d'habitude, la social-démo digère tout, donc digère les luttes subversives et les plus résistantes. Donc le milieu des années 80, ça va donner énormément de journaux.
On reviendra sur cette histoire après des années 80, après le titre Tarifa du duo lyonien Munch qui se lance. We'll be right back.
Gouinement lundi, l'émission 100% lesbienne et bi.